Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver jusqu'à 9h temps universel. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat en Côte d'Ivoire après l'annonce de la démission de Tidiane Thiam à la tête du PDCI. Son parti s'est réuni hier en urgence et a décidé d'organiser un congrès extraordinaire demain pour élire un nouveau président. Un nouveau président qui, sauf énorme surprise, sera Tidiane Thiam lui-même. L'opposant menacé par une procédure judiciaire de destitution a donc pris tout le monde de court en remettant en jeu son mandat. Qu'en pensez-vous? Que vous inspire sa décision? Peut-elle lui permettre de revenir au centre du jeu politique ivoirien avant la présidentielle d'octobre prochain? Vos réactions nous intéressent. On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreux commentaires et réactions que vous nous avez envoyés via le Facebook et le WhatsApp de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions et les réponses apportées par nos journalistes et des experts que nous avons sollicité. Nous débutons justement en Côte d'Ivoire avec Tidiane Thiam. Nous sommes en ligne de Lomé, au Togo, avec Banam. Bienvenue, Banam.
Merci. Bonjour, Namoury Dosso. Bonjour, la régie.
Alors, Banam, vous souhaitez en savoir davantage sur la démission de Tidiane Thiam. Vous l'avez sans doute appris à travers les journaux de RFI. Le président du PDCI-RDA, le principal parti d'opposition, a démissionné hier. Cette décision survient à 5 mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Banam, pour vous répondre le mieux possible, nous avons sollicité Binta Diane, notre correspondante en Côte d'Ivoire. Bonjour, Binta.
Bonjour Namoury, bonjour Banam et bonjour à tous.
Bon, Banam, on écoute votre toute première question.
Merci. Tidiane Thiam a renoncé à la présence du PDCI-RDA. J'aimerais savoir pourquoi a-t-il démissionné.
Binta Diane vous répond.
Alors Tidiane Thiam affirme être victime d'un harcèlement judiciaire, selon ses mots. Cela fait déjà un mois qu'il pilote à distance sa campagne depuis la France. Et dans une vidéo diffusée hier matin, il affirme faire l'objet d'attaques répétées et injustifiées avec la justice pour principal instrument. Fin de citation. En réalité, sa démission intervient à un moment stratégique. Il est au milieu d'un procès devant la justice ivoirienne. C'est un procès intenté par Valérie Yapo, une cadre du PDCI, qui remet notamment en question la légalité de son élection à la tête du PDCI le 22 décembre 2023. Et dans ce procès, Tidiane Thiam risque, en définitive, d'être destitué de son poste, si la justice donne raison à Valérie Yapo. Alors aujourd'hui, annoncer sa démission avant l'issue de ce procès est une manière d'atténuer l'impact de cette procédure, puisqu'il renonce à son mandat. Le juge n'a plus de raison de le déclarer illégal, estime un juriste.
Banam, vous avez une autre question pour Binta Diane.
Absolument. J'aimerais savoir aussi quel impact cette démission peut-elle avoir sur l'unité et la stratégie du parti d'opposition à l'approche de la présidentielle.
Réponse de Binta Diane en Côte d'Ivoire.
Alors pour l'instant, le parti affiche son soutien sans faille à son candidat. Plusieurs meetings ont été organisés ces derniers jours dans plusieurs localités favorables au PDCI. À chaque rencontre, les leaders réitèrent leur souhait de voir Tidiane Thiam figurer sur la liste électorale. Par ailleurs, Tidiane Thiam part favori sur ce vote du congrès qui aura lieu demain.
Enfin, Banam, on écoute votre toute dernière question.
Merci. Bon, malgré cette décision, Tidiane Thiam peut-il toujours se présenter à la présidentielle?
Binta Diane.
Alors ça, c'est une question radicalement différente. La justice a ordonné sa radiation de la liste électorale le mois dernier. À ce stade, Tidiane Thiam est donc inéligible. Ce n'est pas encore totalement acté au sens où la liste électorale devrait être publiée seulement autour du 20 juin. Or, d'ici octobre, aucune autre révision des listes n'est prévue. Cela lui aurait permis de s'inscrire, puisqu'en renonçant à sa nationalité française en début d'année, il serait, selon le département de la justice, redevenu exclusivement logement ivoirien depuis le mois de mars. Et c'est une condition sine qua non pour être éligible à la présidentielle. Malgré ces contraintes, Tidiane Thiam ne baisse pas les bras. Il maintient son ambition d'être candidat du PDCI le 25 octobre prochain. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre, affirme-t-il dans la déclaration diffusée hier nuit sur les réseaux sociaux.
Banham, avons-nous convenablement répondu à vos interrogations ?
Absolument, merci beaucoup.
Eh bien Banham, nous vous souhaitons une excellente journée à Lomé au Togo. Salut également tous nos auditeurs qui nous écoutent à Lomé. Merci également à Binta Diane, correspondante permanente de RFI à Abidjan. Justement, la politique ivoirienne et la situation de Tidiane Thiam avec sa démission réélection. On en parle tout à l'heure dans la seconde partie d'Appel sur l'actualité. On attend vos réactions au standard 33 9 693 693 70. Nous sommes désormais en ligne avec Charmoc. Vous nous appelez de Impfondo dans l'est de la République du Congo. Bonjour Charmoc.
Bonjour Namori.
Alors vous avez des questions au sujet de la situation entre l'Inde et le Pakistan. Les deux puissances nucléaires se sont livrées ces derniers jours à une confrontation militaire la plus importante depuis 20 ans. Hier, Narendra Modi, le Premier ministre indien, a promis une réponse ferme à toute nouvelle attaque terroriste deux jours après le cessez-le-feu. Pour vous répondre, Charmoc, nous avons sollicité Charlotte Thomas, chercheuse associée au programme Asie du Sud, de Noria. Il s'agit d'un organisme de recherche indépendant à but non lucratif. Charlotte Thomas, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci de votre accueil.
Alors Charmoc, quelle est votre toute première question ?
Oui, Namori. Après plusieurs jours d'affrontement, l'Inde et le Pakistan semblent avoir accepté un cessez-le-feu. À cela, comment les États-Unis ont-ils procédé pour trouver un accord de cessez-le-feu entre ces deux pays ?
Charlotte Thomas vous répond, Charmoc.
Oui, merci de cette question. Alors, je vais répondre un petit peu de décalé, mais vous allez voir que je réponds à votre question. En fait, historiquement, il y a déjà eu des affrontements entre le Pakistan et l'Inde, comme vous le rappelez, et les États-Unis ont souvent fait œuvre de diplomatie, mais de diplomatie, en fait, en arrière-scène, sans du tout mettre en avant au niveau international le fait qu'ils avaient contribué à un éventuel cessez-le-feu entre les deux pays. Et ça, c'était très, très important parce qu'en fait, le Pakistan comme l'Inde considèrent leurs différents respectifs, enfin, le différent qu'ils ont tous les deux, comme un sujet strictement bilatéral auquel la communauté entre guillemets internationale n'a pas à se mêler. Et ça fluidifiait les relations, ça permettait justement à la diplomatie étrangère, hors États-Unis, hors Pakistan, hors Inde, de faire son travail. Or là, en fait, le fait que les États-Unis, alors je ne peux pas répondre objectivement sur comment et quels leviers ils ont actionné, mais il est certain que les États-Unis de Donald Trump ont fait pression sur notamment l'Inde pour accéder à ce cessez-le-feu. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le fait que les États-Unis l'aient dit ouvertement et publiquement a fait qu'en Inde, la réaction est terrible. Ça s'est vécu comme une victoire absolue du Pakistan sur l'Inde. Donc, ça veut dire que les nationalistes xénophobes et hindouistes qui soutiennent la politique de Narendra Modi sont extrêmement mécontents. Et en fait, ça n'apaise pas du tout les tensions. Donc, c'est ça qui a à retenir plus de l'influence états-unienne. C'est qu'encore une fois, si je puis me permettre, mais Donald Trump aurait mieux fait d'utiliser Twitter avec un peu plus de retenue parce que ça met vraiment en péril les possibilités de négociation ultérieure des États-Unis en termes de diplomatie.
Et d'ailleurs, au sujet de cet affrontement entre le Pakistan et l'Inde, l'armée pakistanaise annonce ce mardi matin un nouveau bilan de 40 civils et 11 militaires tués durant la semaine passée lors de la pire confrontation entre les deux pays. Charmoc, vous avez une autre question pour notre invité.
Oui, j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce qui a favorisé cet accord ? Quelles sont les chances que cette trêve dure sur le long terme ?
Charlotte Thomas vous répond, Charmoc.
Oui, pardon, j'avais anticipé. Oui, alors ça, c'est ce que je disais. Et honnêtement, en tant qu'analyste, je ne peux pas vous répondre précisément sur quel point Trump a actionné vis-à-vis de Modi. Mais il est clair que la dépendance économique entre les deux pays est importante. Aussi, la volonté de respectabilité, parce que quand bien même Narendra Modi a une balance commerciale excédentaire vis-à-vis des États-Unis, eu égard à la politique tarifaire que met en place Trump, Narendra Modi était venu supplier un petit peu dès l'élection de Trump des des aménagements dans cette politique tarifaire. Donc ça, c'est sûr que, ça, à mon avis, c'est là que ça s'est joué. En revanche, pour répondre à la deuxième partie de la question qui est, selon moi, cruciale pour avoir travaillé aussi sur cette zone du monde, ce cessez-le-feu n'est pas durable, quoi qu'il arrive, de la même façon que celui de 47, 65, 71 et 98. Pourquoi ? Parce que le sujet auquel il n'est pas apporté de réponse, c'est la situation des populations cachemiries, qu'elles soient du côté du Pakistan comme du côté de l'Inde. Ce sont deux minorités qui, au sein de leurs États respectifs, jouissent de beaucoup moins de droits que leurs concitoyens, voire même subissent une répression très très forte, comme c'est dans le cas dans le Cachemire indien, de la part de l'État indien. Et à cet égard, du coup, le motif, pour terminer sur ça, l'Inde comme le Pakistan n'ont aucun intérêt à régler la situation du Cachemire, à régler leurs différends, parce que ça leur permet de ne pas répondre aux demandes de leurs populations respectives, accusant à chaque fois le voisin. Et donc, pour terminer, le cessez-le-feu ne peut pas être durable, puisqu'on, tant qu'on ne répond pas aux demandes des populations locales, alors les sujets, si vous voulez, d'instrumentalisation et d'inflammation de la région demeurent existants, et donc celui de la vallée du Cachemire.
Et d'ailleurs, au sujet de cet affrontement, les internautes continuent de s'affronter à coups de fausses informations à propos de la pire confrontation entre les deux puissances nucléaires depuis des décennies. Prudence donc, pour vous informer, n'hésitez pas à écouter les journées de Radio France Internationale et à consulter notre site rfi.fr. Charmoc, avez-vous les réponses à vos questions ?
Oui, c'est parfait, Namouré.
Eh bien, nous vous souhaitons une excellente journée à Imfondo, dans l'est de la République du Congo. Un grand merci également à Charlotte Thomas, chercheuse associée au programme Asie du Sud de Noria, un organisme de recherche indépendant à but non lucratif. Nous sommes désormais en ligne avec Yosounon de Parakou au Bénin. Bienvenue, Yosounon.
Bonjour, Namouré. Bonjour à Anne Andelower, votre correspondante en Tchéquie.
On salue également Anne Andelower. Vous avez des questions au sujet de la dissolution du PKK. Le Parti des travailleurs du Kurdistan l'a annoncé hier dans un communiqué. Le PKK considère qu'il a accompli sa mission historique et que grâce aux armes, la question kurde est parvenue à un point où elle peut désormais être résolue par une politique démocratique. Cette décision met un terme à plus de 4 décennies de lutte armée contre l'État turc qui a fait plus de 40 000 morts. Alors Yosounon, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Nicolas Monceau, maître de conférence en sciences politiques à Bordeaux. Nicolas Monceau, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu Yosounon, un auditeur béninois qui a des questions à vous poser. Yosounon, on écoute votre première question.
J'ai suivi sur votre chaîne qu'après plusieurs mois de négociations, le PKK avait décidé de s'autodissoudre. Le groupe armé se justifie en annonçant avoir accompli sa mission historique. Mais qu'est-ce qu'il entend par là ?
Nicolas Monceau.
La mission historique du PKK a consisté, par le choix de la lutte armée, à obtenir la reconnaissance d'une identité kurde en Turquie qui, dans les dernières décennies, n'existait pas. Il y avait un déni ou une négation de l'identité kurde, d'une population kurde avec sa culture, sa langue dans le pays. D'ailleurs, il y a une quarantaine d'années, on parlait des Kurdes comme étant les Turcs des montagnes en Turquie, enfin dans le vocabulaire officiel. Et par conséquent, le PKK, qui a été fondé en 1979, a choisi la lutte armée pour obtenir des droits culturels et politiques des Kurdes en Turquie et faire en sorte que cette identité kurde soit reconnue. À ce titre, après 40 années de lutte armée, le PKK a considéré, parmi d'autres facteurs, qu'elle avait obtenu ou parvenu à ses objectifs, que désormais la question dite kurde, l'identité kurde, était reconnue en tant que telle et que donc une nouvelle étape pouvait être franchie à travers la recherche d'une résolution politique de cette question kurde en Turquie.
Yosounon, vous avez une deuxième question pour notre invité.
Oui. Qu'est-ce que le PKK va obtenir en contrepartie de sa dissolution et qu'adviendra-t-il de ses membres ?
Nicolas Monceau.
Alors, les autorités turques n'ont pas donné d'indications très précises, n'ont fait aucune promesse publique au PKK dans le cadre de cette dissolution annoncée hier. Il y a effectivement un certain nombre de questions qui restent en suspens. Hein. Par exemple, le désarmement des combattants du PKK. Quand vont-ils désarmer et comment vont-ils également rendre leurs armes ou encore le sort d'un certain nombre de responsables, de dirigeants de l'organisation qui sont recherchés en Turquie, puisqu'il faut rappeler que le PKK est défini comme une organisation terroriste par les autorités turques. Et donc, que va-t-il advenir de ces dirigeants? C'est une autre question qui reste en suspens. Ceci étant dit, il y a plusieurs attentes qui sont soulignées ces derniers jours, alors qui concernent tout d'abord l'organisation elle-même, le PKK. Donc, on parle beaucoup d'un assouplissement des conditions de détention de son chef historique, Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis 26 ans dans une prison île. À Imralı, au nord à proximité d'Istanbul. Donc, il n'est pas pour la question d'une libération du chef historique pour des raisons de sécurité en particulier, mais ses conditions de détention pourraient être améliorées. Et aussi, il y a d'autres attentes politiques qui sont évidemment très, très fortes en termes de réformes que le parti au pouvoir, l'AKP du président Erdogan, pourrait mettre en œuvre dans les prochains mois. Et une des principales revendications du PKK a été la reconnaissance de cette identité kurde, des droits politiques et culturels des Kurdes en Turquie dans la constitution de la République de Turquie, ce qui donc supposerait une réforme de cette constitution, ce qui est un processus assez difficile, assez délicat en soi, avec pour perspective donc effectivement une reconnaissance de l'identité kurde, des Kurdes de Turquie comme une minorité à part entière, avec des droits et des culturels et politiques qui lui sont reconnus.
Merci Nicolas Monceau. Yosounou, avez-vous obtenu les réponses à vos questions?
Merci à votre invité pour ces explications, c'est clair.
Belle journée à vous à Parakou, au Bénin. Yosounou, remercie également Nicolas Monceau, maître de conférence en sciences politiques à Bordeaux, pour son éclairage. Enfin, nous retrouvons Esdras qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Esdras.
Bonjour. Permettez-moi d'entrer de saluer Anissa El Jabri, votre correspondante à Moscou.
Et on remercie, on salue également Anissa, notre correspondante permanente en Russie. Vos questions portent sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et pour répondre à vos interrogations, nous sommes en ligne avec Ulrich Bouna, analyste géopolitique, chercheur associé chez Eurocreative. Bonjour à vous Ulrich Bouna.
Bonjour.
Alors Esdras, vous avez deux questions pour nos invités.
Zelensky a proposé à Poutine une rencontre jeudi à Istanbul pour discuter d'une paix durable. C'est en comment Poutine se positionne face à cette demande?
Ulrich Bouna vous répond.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle de la part de Vladimir Poutine sur cette proposition de rencontre entre Zelensky et lui. Il faut remonter un peu les choses pour bien comprendre pourquoi on en arrive à cette situation-là. C'est que Donald Trump, qui est véritablement celui qui met la pression sur les deux interlocuteurs pour qu'ils se parlent, cherche effectivement à obtenir soit un cessez-le-feu, soit en tous les cas une avancée dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, effectivement, il a essayé ces derniers jours de mettre une pression assez folle. Et pour répondre à cette pression, finalement, Vladimir Poutine a proposé de reprendre des négociations donc en Turquie sur la base de ce qui s'était passé en mars-avril 2022. Et saisissant finalement la balle au bon, Volodymyr Zelensky, lui aussi qui cherche à rester dans les bonnes grâces de Donald Trump, a dit très bien, j'irai moi-même donc jeudi à Istanbul. Et donc effectivement, c'était une façon de plaire à Donald Trump et de renvoyer la balle à Vladimir Poutine en lui disant « viens à Istanbul, je t'attends ». Et pour l'instant, on n'a pas de réponse officielle de Vladimir Poutine. Il est probable qu'il va devoir se positionner quand même assez rapidement puisqu'il a été relancé par Donald Trump et que Donald Trump a dit qu'il ferait peut-être lui-même le voyage à Istanbul. Mais pour l'instant, la position du chef de l'État russe, c'est pas clair.
Enfin, Ulrich Bouna, en quelques mots, sous quelles conditions cette rencontre pourrait-elle avoir lieu?
Alors, elle pourrait avoir lieu si Donald Trump se déplace. Je pense que si Donald Trump y va, Vladimir Poutine ne pourra pas faire autrement que d'y aller. En revanche, si effectivement Donald Trump n'y va pas, il est probable que Vladimir Poutine n'ira pas C'est pas véritablement dans son intérêt de rencontrer Volodymyr Zelensky. Lui, ce qu'il cherchait avant tout à la base, c'était d'échapper un petit peu à l'ultimatum sur les mis par les Européens sur un cessez-le-feu. Juste en un mot, quand bien même il y aurait une rencontre, c'est pas pour ça que ça déboucherait sur un cessez-le-feu et encore moins sur la paix. Les objectifs stratégiques de la Russie et de l'Ukraine sont encore bien trop divergents par rapport à cette guerre.
Merci Ulrich Bouna, on remercie également Esdras qui nous appelle de Douala au Cameroun pour sa question. Il est actuellement 10h29, dans une vingtaine de secondes ce sera l'heure du journal Afrique. Restez avec nous juste après le journal, hein, nous débuterons le débat d'appel sur l'actualité consacré à la Côte d'Ivoire avec la démission qui pourrait se conclure par une réélection de Tidiane Thiam, le président du PDCI. On en parle dans un instant.